À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Michel Pastoureau, historien, très content de l'être depuis un demi-siècle.
Cinquième épisode, l'historien face aux autres animaux. Bonjour, bonsoir Michel Pastoureau.
Bonjour et bonsoir.
Alors on termine cette série avec l'histoire des animaux et peut-être aussi la façon dont vous avez réussi à conquérir le public. Vous nous disiez dans l'émission d'hier, la quatrième, que le tournant avait été opéré avec ce livre « L'étoffe du diable, une histoire des rayures et des tissus rayés » paru en 1991 et traduit dans 42 langues, puis réédité au Seuil sous le titre « Rayures, une histoire culturelle ». Est-ce que pour vous, c'est aussi l'histoire d'un renversement, c'est-à-dire l'immense succès de vos livres, traduits quasiment tous, c'est-à-dire plus de 80 dans une trentaine de langues, le fait que vous soyez invité un peu partout à faire des conférences, que vous soyez, vous nous le disiez à la fin de l'émission hier, que vous soyez un ami maintenant de grands stylistes, est-ce que c'est une petite victoire personnelle ?
Oui, du côté des couleurs, c'est une victoire personnelle. Du côté des animaux, c'est une victoire collective, si je puis dire. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant puis jeune chercheur, l'animal non seulement n'intéressait pas les historiens, mais n'intéressait pas grand monde du côté des sciences humaines. Du côté de la recherche, c'était réservé à quelques zoologues, et encore peu nombreux. Il y avait un certain mépris pour le monde animal, et du côté de l'histoire, c'était vraiment la petite histoire, et même la petite histoire que celle des animaux. Et puis, en 50 ou 55 ans, j'ai vu les choses changer, les difficultés que j'ai eues, moi, pour imposer mon sujet de thèse sur le bestiaire héraldique. Mes successeurs, mes étudiants, n'ont plus de telles difficultés. Et du côté des sciences humaines en général, puis de la société, d'une manière plus large encore, l'animal a conquis une place de plus en plus grande. Et aujourd'hui, c'est le sujet vedette de la vie en société, ou un des sujets vedettes, le droit des animaux, la souffrance animale, les problèmes d'élevage, de consommation, le bien-être animal et toutes les morales qui vont avec. Il y a 50 ans, ça n'intéressait personne.
Ce qui peut aussi nous rapprocher du Moyen-Âge, où au Moyen-Âge, on pratiquait des procès pour animaux, ce qui avait un bon côté, qui était au moins qu'on les considérait peut-être pas à ce point comme l'égal des humains, mais en tous les cas, on les mettait, on les séparait moins, disons, des humains dans le monde des vivants. Est-ce qu'on est presque en train de revenir à cette considération-là ?
On n'en est pas loin. En effet, le Moyen-Âge, en Europe en tout cas, est probablement l'époque qui s'est le plus intéressé aux animaux, en tout cas qui a été la plus bavarde sur les animaux et qui laisse à l'historien quantité d'informations, des textes, des images, des restes archéozoologiques, des traditions orales, des croyances, des superstitions, des faits de langue, tout ce que l'on veut. Les documents sont foisonnants. Le Moyen-Âge est bavard et il y a deux courants, au fond, au Moyen-Âge, vis-à-vis de l'animal. Il y a un courant qui invite à ne pas confondre l'homme et l'animal. Pour le christianisme, c'est même un péché. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'animal, c'est une créature imparfaite qui lui est soumise, une créature impure même. Donc, ça conduit à des interdictions. Par exemple, se déguiser en animal pour faire la fête, c'est un immense péché au Moyen-Âge. Mais comme les interdictions sont sans cesse répétées, ça prouve bien sûr qu'elles ne sont pas appliquées. Et puis, il y a un deuxième courant qui n'est pas dominant, mais qui est bien attesté quand même. C'est celui, au fond hérité d'Aristote, qui pense qu'il y a une communauté des êtres vivants. Et donc là, le cousinage entre l'être humain et l'animal est beaucoup plus grand et souvent mis en scène. Et il est relayé au sein du christianisme par saint Paul, qui, dans plusieurs épîtres, mais notamment dans l'épître aux Romains, souligne que, à la fin des temps, l'animal, lui aussi, sera sauvé et deviendra enfant de Dieu. C'est la phrase même de l'épître aux Romains. Et donc, le christianisme est ambivalent de ce point de vue-là. Et l'argument massue de tous ceux qui pensent que les animaux sont aussi enfants de Dieu, c'est que Jésus est né dans une étable, et donc il est venu sur Terre aussi pour sauver les animaux.
Votre intérêt à vous, Michel Pastoureau, pour les animaux, est plus ancien, me semble-t-il, que votre thèse sur le bestiaire héraldique. D'où vous vient-il, cet intérêt ?
Il vient de mon infantilisme, comme tout ce que je fais, c'est-à-dire que mes sujets de recherche remontent à la petite enfance. Tous les enfants s'intéressent aux couleurs et aux animaux. Tout petit, bien sûr, j'ai fait comme tous les enfants de ma génération, je me suis intéressé aux couleurs et aux animaux, mais en général, en grandissant, les enfants passent à autre chose, et moi je ne suis jamais passé à autre chose. J'en ai fait mes premières curiosités, mes premiers sujets de recherche, mes travaux les plus importants, les thèmes de mon enseignement pendant 50 ans. Donc ça vient de très très loin, cette curiosité pour les animaux. Donc d'abord les animaux vivants, puis rapidement également les animaux représentés, pensés, fantasmés, symbolisés. Donc j'en ai fait mon sujet de thèse à l'école des Chartes quand j'étais grand étudiant, et puis je n'ai jamais cessé de travailler sur l'histoire des animaux, des rapports entre l'homme et l'animal, même si on me connaît davantage comme historien des couleurs, j'ai écrit à peu près autant de livres sur l'histoire des animaux que sur l'histoire des couleurs.
On sait, depuis une des émissions de cette semaine, que le cochon n'était pas rose au XIIe siècle. Manifestement, nous l'avons compris. Vous avez effectivement écrit plusieurs ouvrages sur le cochon. Par exemple, on va en citer un, « Histoire d'un cousin mal aimé ». Pourquoi est-il mal aimé, le cochon ?
Oui, pourquoi est-il si mal aimé ? Il ne l'est pas dans l'Antiquité. Chez les Grecs, chez les Romains, chez les Gaulois, chez les Germains, c'est un animal extrêmement valorisé, qu'il soit sauvage ou domestique. On aime le sanglier, on aime le porc domestique, on en tire toutes sortes de produits, on ne le dénigre pas. C'est le christianisme, au fond, qui lui attribue un certain nombre de vices que l'Antiquité ne souligne pas tellement. La goinfrerie, la saleté, le fait que le cochon regarde toujours dans le sol, vers le sol, pour fouiller avec son groin, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas vers le ciel, c'est-à-dire vers Dieu, ça c'est un grand péché, bien sûr. Et puis, il y a quand même des raisons plus symboliques. Le cochon, pour la médecine antique comme pour la médecine médiévale, c'est l'animal qui est pensé comme le plus proche de l'être humain. C'est son cousin, à la fois du point de vue anatomique et du point de vue physiologique. Et donc, ça, c'est à la fois quelque chose qui est ambivalent, attrait d'un côté, mais rejet aussi de l'autre. Trop ressembler à l'être humain, ça n'est pas très très valorisant. Ça explique un très grand nombre de tabous, notamment dans certaines religions, le fait de rejeter le porc, de ne pas manger de viande de porc, ce qui serait être cannibale presque, ou anthropophage, je ne sais pas. Donc des tabous sur le porc, on a cherché très grand nombre d'explications pour le judaïsme notamment, pourquoi ce rejet du porc. Je crois que l'explication la plus simple, c'est ce cousinage bien connu des sociétés anciennes entre l'homme et le porc. On dit toujours qu'entre les grands singes et l'être humain, il y a 97% d'ADN en commun, mais on oublie de dire qu'entre l'homme et le porc, il y en a 96%. Donc c'est à peu près pareil.
D'ailleurs, c'est un cochon qui a tué un roi. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le roi tué par un cochon ». Donc le cochon serait aussi à l'origine de la mort d'un roi ?
Oui, c'est une histoire qui n'était pas connue, même pas connue du tout, que j'ai sortie des archives, si je puis dire. Nous sommes au XIIe siècle, mon siècle, et le fils aîné du roi de France, Louis VI le Gros, en 1131, meurt dans une rue de Paris d'une chute de cheval provoqué par un cochon domestique qui s'est jeté dans les pattes du cheval. Le jeune prince est tombé et est mort. Et ça a eu un événement, c'était un événement retentissant parce que ce jeune prince avait été, selon l'usage, déjà sacré et couronné roi de France du vivant de son père. Pour assurer la succession de la dynastie, on prenait le soin du vivant du père de couronner et sacrer le fils. Donc c'était un personnage tout à fait hors du commun, ce jeune prince Philippe qui avait 15 ans, qui naturellement annonçait un règne merveilleux, et il est mort, non pas tué à la chasse par un sanglier, ce qui aurait été une mort relativement héroïque pour un prince, province, mais par un vulgaire cochon domestique dans une rue de Paris. C'était une souillure effroyable pour toute la monarchie, pour tout le royaume, une affaire considérable qui laisse des traces énormes dans les documents, dans les chroniques, dans les annales, que les historiens ont complètement oubliées, mais qui explique pas mal de choses, notamment que le frère cadet devient roi à la place de l'aîné, alors qu'il était destiné à l'état ecclésiastique, c'est le futur Louis VII, qui va être un roi qui n'est pas du tout préparé à son métier de roi, dont le règne interminable va être une suite de catastrophes épouvantables, notamment la guerre franco-anglaise, le divorce d'avec Aliénor, l'impossibilité d'avoir un fils, la croisade complètement malheureuse. Bref, un règne terrible qui a conduit le roi Louis VII, entre son premier divorce et son remariage, d'épouser symboliquement la Vierge, avec l'idée qu'elle va protéger le royaume de France. Et parmi ces symboles, on crée les armoiries royales vers la fin du règne en empruntant à la Vierge deux de ses attributs principaux, la fleur de lys d'un côté et la couleur bleue de l'autre. Et mon idée, c'est que cette couleur bleue, couleur héraldique de la monarchie capétienne, puis de la monarchie tout court, puis du royaume de France et de la nation française, n'a pas été rejetée par la République en 1789-93, comme tous les autres emblèmes monarchiques, a été gardée parce que c'était devenu la couleur de la nation. Donc ce bleu de France, dû à un cochon domestique en 1131, qui a tué le jeune prince Philippe, est devenu la couleur de la France et l'est encore aujourd'hui, puisque sur tous les terrains de sport, tous les sportifs qui représentent notre pays jouent en maillot bleu. Donc ça n'est pas une mince affaire qu'il se passe le 13 octobre 1131 dans une rue de Paris à cause d'un vulgaire cochon.
Donc c'est moins connu, mais le cochon, c'est un peu comme le nez de Cléopâtre, il a vraiment changé la face du monde.
En tout cas, il a changé le cours de l'histoire de France.
Le cours de l'histoire de France, indéniablement. Vous disiez, Michel Pastoureau, que l'histoire du cochon, c'est aussi l'histoire d'un rejet. Il n'a pas toujours été mal aimé, mais il s'est mis à être mal aimé. Finalement, est-ce que tous les animaux sur lesquels vous avez travaillé et écrit, je pense au loup, au corbeau ou à l'ours, n'ont pas en commun d'avoir été rejetés, justement, dans l'histoire ?
Si, ce sont des mal-aimés, des animaux dépréciés à un titre ou à un autre, ce qui fait que les documents les concernant sont beaucoup plus nombreux que les animaux positifs. Et ça, c'est un fait qu'il faut souligner en histoire. Le mal est toujours mieux documenté que le bien. Donc l'historien a toujours beaucoup plus de documents pour travailler sur ce qui est péjoratif, négatif, condamné, que sur ce qui est valorisé, c'est vrai des époques anciennes, c'est vrai de notre époque aussi, le cours ordinaire des choses, on n'en parle quasiment jamais. Donc ces animaux sont bien documentés et ils ont en commun d'être valorisés par les sociétés païennes et rejetés par le christianisme. C'est vrai du loup, c'est vrai surtout de l'ours et c'est vrai du corbeau, les trois animaux sur lesquels j'ai le plus travaillé avec le cochon. Les documents sont très nombreux, ce sont des animaux qui ont toute ma sympathie, bien sûr, et qui, à un titre ou à un autre, se revalorisent à l'époque contemporaine. L'ours, qui était l'ancien roi des animaux, a été remplacé au cœur du Moyen-Âge par le lion. L'Église avait la haine de l'ours, justement parce qu'il y avait des cultes païens de l'ours en pleine terre chrétienne jusqu'à des dates avancées. Mais l'ours a pris sa revanche avec l'ours en peluche, à partir de 1903, il est le premier animal qui partage le lit du jeune enfant, comme au paléolithique, il partageait la caverne avec l'être humain. Le loup, qui était un animal effroyable, redouté dans la vie des campagnes, à partir de la fin du 19e siècle, se revalorise. Pasteur a découvert le vaccin anti-rabique, ça a beaucoup fait pour faire diminuer la peur du loup. Et aujourd'hui, quand on prend le livre pour enfants, par exemple, quelle est la vedette du monde animal ? C'est le loup. Ce n'est plus le grand méchant loup, c'est le grand gentil loup qui affronte les trois méchants petits cochons.
Oui, mais c'est pas complètement vrai, vous le dites vous-même. Vous vous êtes retrouvé parfois dans des conférences pris entre deux feux, à propos de l'ours comme à propos du loup d'ailleurs, parce qu'en plus d'avoir été des animaux rejetés, ce sont encore d'ailleurs des êtres passionnelle, source de passion dans la société française entre les partisans du loup et les adversaires du loup, pour ne pas dire les ennemis.
Oui, moi-même et surtout mon collègue Jean-Marc Morisseau, qui est le grand spécialiste de l'histoire du loup en France sous l'Ancien Régime, nous avons été pris à partie en faisant des conférences purement historiques à tel ou tel endroit par une salle partagée entre adversaires et partisans de la réintroduction du loup dans la France d'aujourd'hui. Donc nous avons été pris à partie. Le loup fait encore polémique, de même que l'ours dans les Pyrénées, réintroduction, hostilité à la réintroduction. Moi-même, au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, j'ai été sommé de dire si je penchais du côté de la réintroduction de l'ours ou de ses adversaires. Lâchement, naturellement, je n'ai pas donné mon avis, mais j'ai dû m'enfuir. Une salle était en délire, avec deux parties prêts à s'affronter. Bref, des animaux qui font polémique. Le corbeau, qui a toute ma sympathie, et qui lui aussi prend sa revanche, est un peu moins polémique. Quand j'étais adolescent, dans la vie des campagnes, on tuait encore, pour s'amuser, beaucoup de corbeaux, avec l'idée que c'était des animaux nuisibles, qui mangeaient les graines, et qui faisaient peur à tout le monde, etc. C'est absurde, bien sûr. Aujourd'hui, quand même, le corbeau prend sa revanche, parce que toutes les enquêtes sur l'intelligence animale montrent que le premier de la classe, c'est lui. L'animal le plus intelligent, ce n'est pas tel ou tel grand singe, c'est le corbeau. Et ça, les sociétés anciennes le savaient déjà, Pline le dit dans son Histoire naturelle.
De quel point de vue, de quelle intelligence parle-t-on dans ces cas-là ?
Eh bien, des capacités cognitives, des capacités mémorielles, des capacités de déduction. Le corbeau reconnaît, a une mémoire extrêmement longue, est capable de fabriquer des outils pour fabriquer d'autres outils. On pense même qu'il pratique l'humour, c'est-à-dire qu'il cache de la nourriture, se dissimule lui-même et observe. Et quand d'autres oiseaux viennent chercher cette nourriture cachée, alors qu'il n'y en a pas, il se moque des oiseaux qu'il a bernés.
Ça vous plaît beaucoup parce que vous le dites avec le sourire. Vous disiez, Michel Pastoureau, que tous ces, je vous cite, tous ces animaux ont bien sûr ma sympathie. Est-ce que ça veut dire que vous ne pourriez travailler sur un animal qu'il n'a pas ?
Non. Je pense que l'état de sympathie entre le chercheur et son objet de recherche est nécessaire. Et il y a des animaux, non pas que je n'aime pas, mais pour lesquels je n'éprouve pas de sympathie particulière, donc je ne travaille pas sur eux. Par exemple, le lion ne m'attire pas spécialement, alors que c'est un sujet pour l'historien absolument passionnant et que les documents, là encore, sont très très nombreux. Je laisse cela à d'autres. D'ailleurs, nous manquons d'un bon travail sur le lion européen. C'est partie de la vie quotidienne, hein. Le lion en Europe, il y a des lions partout, dans n'importe quelle église européenne. Il y a des lions peints, des lions sculptés, des lions racontés. La Bible est un livre rempli de lions, etc. Ça ne m'a jamais beaucoup attiré, même si j'en reconnais complètement l'importance. Le cheval également ne m'a jamais attiré, alors que ma cousine Germaine est passionnée par les chevaux, a essayé de me sensibiliser. Il y a beaucoup de spécialistes de l'histoire du cheval et beaucoup de bons travaux, là. Et puis, le chien, par exemple, ne m'a jamais beaucoup attiré non plus, alors que nous manquons vraiment d'un grand livre sur l'histoire du chien.
Donc, ce qui vous oriente vers tel ou tel animal, c'est non seulement l'existence de sources, de documentation, mais aussi une certaine forme de subjectivité assumée.
Bien sûr, l'historien, avec sa personnalité, fait partie même de son sujet. Hein. Travailler sur tel ou tel animal, c'est aussi travailler sur moi-même.
Si vous étiez un animal, vous seriez lequel ?
Oh, je serais un ours, ça, certainement.
Donc c'est pas seulement le livre qui est votre préféré, c'est aussi l'animal.
C'est aussi l'animal. J'hésiterais, bien sûr, entre l'ours, le cochon et le corbeau. Mais ce serait quand même l'ours, d'abord parce qu'il est un peu plus anthropomorphe que les autres, du moins extérieurement. Et puis il a un regard tellement mélancolique que ça ne peut que susciter la sympathie.
Alors vous nous avez commencé de nous dire quelques informations, quelque chose tout à l'heure sur l'ours. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, qu'on s'arrête sur déjà cet animal dont vous dites qu'il n'est pas comme les autres. Pourquoi il n'est pas comme les autres ?
Il n'est pas comme les autres parce que du point de vue extérieur, il a l'air d'un être humain. Il peut se mettre debout, il peut saisir des objets, il peut les manier, il peut en fabriquer d'autres, il peut danser, sauter, nager. Bref, extérieurement, c'est l'animal qui ressemble le plus à l'être humain. Au Moyen-Âge, on dit qu'il y a trois animaux qui ressemblent à l'être humain. L'ours, par son aspect extérieur. Le cochon, nous l'avons dit, par son organisation interne, anatomique et physiologique. Et puis on ajoute, le singe également ressemble un peu à l'être humain. Mais en fait, il ne lui ressemble pas du tout. Et en effet, pour la culture médiévale, le singe, c'est la créature la plus laide qui existe. Et alors, il ne peut pas ressembler à l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Alors, si c'était une créature abominable du point de vue visuel, pas possible. Donc, certains auteurs ajoutent, en fait, le singe ne ressemble pas du tout à l'être humain, mais il est tellement diabolique qu'il fait semblant de lui ressembler.
Alors que l'ours, non, l'ours ressemble réellement à l'être humain.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que, à partir de 1903, l'ours en peluche est un jouet qui a un succès considérable.
Qui est dans toutes les maisons occidentales. Et sa naissance, vous dites, la naissance du petit ours en peluche, est liée au président des États-Unis, Theodore Roosevelt.
Il y a une double naissance au même moment. Au mois de novembre 1902, le président Roosevelt est en tournée dans le sud des États-Unis. C'est un grand chasseur. Il défend la cause des Noirs des États-Unis méridionaux. Il a été à la chasse plusieurs jours de suite et il est revenu bredouille. Alors son entourage a l'idée d'attacher un ourson à un arbre et d'attirer l'attention du président pour lui dire « là, il y a une proie peut-être facile ». Et le président a épargné l'ourson, bien sûr, il n'allait pas le tuer. Ça a beaucoup fait pour sa popularité, le dessin de presse s'en est emparé, et ça a donné l'idée à un fabricant de jouets pour enfants de fabriquer, pour les fêtes de fin d'année, un ours en étoupe et laine, qu'il a modelé à sa façon, et auquel il a donné le nom, le petit nom du président des États-Unis, Theodore Teddy, il a créé Teddy Bear. Et ça a eu un succès considérable, ça s'est vendu magnifiquement, et ce petit fabricant de jouets a été dépassé d'ailleurs par son succès dans les années qui ont suivi. Et au même moment, dans la banlieue de Stuttgart, en novembre 1902, une femme à moitié paralysée qui fabriquait des poupées et des petits animaux en laine, sur la suggestion d'un neveu, a créé un ours, lui aussi, en peluche et en laine, qui, pour les fêtes de fin d'année 1902, a eu un très très grand succès. Et en Allemagne, comme aux États-Unis, donc l'ours en peluche est né exactement au même moment, sans qu'il y ait eu contact. Donc ça prouve que les choses étaient mûres, de part et d'autre de l'Atlantique.
L'ours, objet de culte, puis roi déchu, qui prend enfin sa revanche. À vrai dire, Michel Pastoureau, on peut penser à vous. Enfant choyé, chercheur moqué et aujourd'hui encensé. Il y a une vraie similitude entre vous et l'ours dans l'histoire.
À condition de modérer les adjectifs. Je n'ai pas été un jeune chercheur moqué. Mes travaux suscitaient un peu la méfiance. Ça semblait pas très sérieux, l'histoire des couleurs, l'histoire des animaux. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Et au contraire, ce qui était un handicap est rapidement devenu un privilège. J'étais très très gâté dans ma carrière universitaire et donc j'espère que ça va continuer puisque à côté de la carrière universitaire, j'ai eu aussi un certain succès auprès d'un public plus large par mes livres.
Oui, parce que vous avez aussi écrit pour les enfants, pour les adolescents. Par exemple, Pierre n'a plus peur du noir, en lien avec l'artiste Soulages, ou l'histoire des châteaux forts. Vous avez fait énormément de livres à destination d'un jeune public, essentiellement aux éditions Priva. Où est-ce que vous vous amusez le plus avec des livres universitaires, avec des livres pour grand public, avec des livres pour enfants, tout?
Oui, pour moi, je ne fais pas trop de différence, c'est-à-dire que j'ai plaisir à faire de la recherche universitaire encore aujourd'hui, alors que en général, quand on est vieillissant, quand on est un universitaire, on fait moins de recherches et on fait la synthèse de tout ce que l'on a accumulé précédemment, ou au contraire, on s'arrête de toute activité professionnelle. Ça n'est pas mon cas, mais j'aime bien aussi écrire pour un public plus large, et j'ai beaucoup de plaisir à écrire pour les enfants. Ce que je ne sais pas trop faire, c'est écrire pour les adolescents. N'ayant pas de petits-enfants moi-même, j'ai un peu, pour la tranche d'âge, disons 12-18 ans, là, il me manque quelque chose, si je puis dire. Mais les petits-enfants, j'aime, bien que quelques critiques ont dit que bon, Michel Pastoureau, c'est la France du petit Nicolas qu'il nous raconte, les choses ont bien changé. Ce qui est vrai, puisque d'une part, le petit Nicolas m'a énormément marqué quand j'étais moi-même enfant, adolescent, adulte. Je trouve que c'est vraiment une littérature chef-d'œuvre que les aventures du petit Nicolas par Goscinny et Sempé. Et puis, je suis resté en effet à des schémas qui sont ceux de l'enfance, de l'école, des camarades des années 50, 60, 70. J'ai dans l'idée que ça n'a pas tellement changé, mais peut-être que je me trompe.
J'ai quand même trouvé une frustration chez vous. Vous êtes un chercheur heureux, mais il y a un point, d'ailleurs un point qu'on ignore souvent, c'est que vous êtes un des meilleurs historiens du sport. Alors, on en connaît des historiens du sport, on connaît notamment Georges Vigarello. Je crois que le père de Georges Vigarello était votre professeur de sport au collège-lycée. Vous allez me dire si je me trompe. Mais est-ce que ça n'est pas une frustration chez vous de ne pas avoir fait plus d'histoire du sport ?
C'est en effet une frustration. Le père de Georges, en effet, a décidé de ma carrière sportive quand je suis entré en sixième. Le premier jour ou le second, nous avons eu cours d'éducation physique. Il a voulu nous faire jouer au football et il a eu cette phrase merveilleuse en me regardant et en faisant les équipes. « Toi le gros, dans les buts ». Et donc je suis entré dans les buts et j'y suis resté pendant toutes mes années de lycée. J'ai été le goal de mon lycée, le lycée Michelet à Vanves, en banlieue sud. J'ai encaissé des milliers de buts, je pense, pendant cette carrière. Mais enfant, j'étais intéressé par le sport, le cyclisme d'abord, puis les sports d'équipe, le tennis, ensuite le ski, l'athlétisme surtout, qui est le sport que je connais le mieux et que je préfère à tous les autres. Et j'ai pas beaucoup écrit sur l'histoire du sport, mais j'ai un savoir dans ce domaine-là qui est très supérieur à mon savoir d'historien des couleurs ou d'historien des animaux, mais j'en parle rarement, probablement parce que j'ai l'impression que je n'ai plus d'interlocuteur. Je suis parfois étonné de voir que les spécialistes du sport, les journalistes sportifs eux-mêmes ont un bagage plus limité que le mien, et que les grands sportifs d'aujourd'hui ne s'intéressent pas du tout à l'histoire de leur sport. Quant au grand public, encore moins. Donc ça me désole un peu.
Merci Michel Pastoureau.
Merci à vous. Merci à tout le monde.
Pour ces 5 entretiens. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Patrick Muller, réalisation Guillaume Baldi. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.